VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 10 septembre 2015. Bagassi Koura et Anne Alberson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
En République centrafricaine, des attaques à la grenade dans le 6e arrondissement de Bangui ont fait au moins 6 morts et plusieurs blessés mercredi soir.
Une première au Cameroun, des militaires de retour de Centrafrique ont manifesté hier pour être payés.
En Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle a retenu 10 candidatures pour l'élection présidentielle du 25 octobre.
Les autorités américaines et béninoises ont signé un contrat d'investissement de 375 millions de dollars dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin.
Au Niger, l'opposition et la société civile exigent la mise en accusation du président de la République après l'affaire de saisie d'importantes devises par la douane.
En tout état de cause, le Front patriotique et républicain considère que le président Issoufou Mahamadou n'est plus digne de la confiance placée en lui par le peuple nigérien.
La Russie confirme la présence de ses militaires en Syrie. Et bien sûr, vous aurez la minute écho et les sports, c'est dans une dizaine de minutes.
En République centrafricaine, des attaques à la grenade dans le 6e arrondissement de Bangui ont fait au moins 6 morts et plusieurs blessés dans la soirée de mercredi. 3 hommes inconnus à moto ont largué des grenades à 3 points différents des quartiers Fatima et Petevo. Les précisions de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Il est 19h local lorsque les assaillants en tenue militaire dont l'identité n'est pas encore connue ont largué la première grenade devant le marché de Petevo. Selon un haut responsable de la police, 4 personnes ont perdu la vie sur place et plus d'une dizaine d'autres blessés. Toujours selon la police, les mêmes personnes ont largué une seconde grenade dans un bar dancing. Ici, on compte 2 morts et des blessés. La troisième explosion enfin s'est produite à quelques mètres de là, précisément à Ketengere où les 3 hommes à moto ont encore fait des victimes. Tout le secteur était en alerte à la suite de l'attaque et des indiscrétions laissent croire que le meneur de l'attaque aurait fui en direction du quartier musulman de PK5. Mais pour l'instant, l'attaque n'est pas encore revendiquée. Une source proche du Centre national hospitalier et universitaire de Bangui a indiqué que des blessés, dont des cas graves, sont pris en charge par Médecins sans frontières. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Une première au Cameroun, des militaires de retour de Centrafrique manifestent pour être payés. En tenue de casque bleu des Nations Unies, ils ont marché sur plus de 4 km de leur base d'Ekounou à Yaoundé vers le quartier général de l'armée en passant par le centre de la ville. Les explications de Tatiana Mosso.
Plus de 200 casques bleus camerounais ont pris part à la manifestation. Bloqués à l'entrée du QG par d'autres militaires, ils sont restés assis plusieurs heures devant l'Assemblée nationale. Ils sont 1300 dans cette situation et ils réclament 12 mois de soldes qui devaient leur être payés lorsqu'ils étaient sous la responsabilité de l'Union africaine, en plus de 6 mois qu'ils ont passés comme casque bleu de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Selon les militaires, la rémunération par l'UA et l'ONU des soldats camerounais devait transiter par leurs responsables hiérarchiques avant d'être reversée aux intéressés. En fin d'après-midi, les manifestants ont quitté leur lieu après une promesse de paiement faite par le ministre de la Défense venu à leur rencontre. La régularisation des primes réclamées s'élèverait à 6 milliards de francs CFA. Les soldats camerounais sont également en première ligne dans l'extrême nord du pays, engagés contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram.
409 cas de violation des droits de l'homme ont été commises en août en RDC. C'est ce qu'a révélé mercredi un rapport du Bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme. Selon ce rapport, ces violations ont été commises pour la plupart dans l'est du pays et les forces armées de la RDC sont responsables de la majorité des cas. José Maria Aranas, directeur du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, on l'écoute au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 409 violations des droits de l'homme dans les mois passés. La majorité des violations des droits de l'homme à l'Est. Les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud Kivu. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécutions sommaires extrajudiciaires. Les FRDC seraient responsables des nombres plus élevés de violations des droits de l'homme avec 93 violations enregistrées est suivi par la PNC. Il faut aussi souligner qu'on a enregistré 24 violations des droits de l'homme qui ont un impact direct sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir.
En Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle a rendu publique ce mercredi la liste des candidatures validées pour l'élection présidentielle du 25 octobre. 10 candidatures, dont celle du président sortant, Alassane Ouattara, Jean-Roger Bion.
Les principaux candidats seront présents en face du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Il y aura Pascal Affi-N'Guessan, candidat d'une frange du FPI de Laurent Gbagbo. Il faudra également compter sur des dissidents du PDCI qui ont décidé de faire la course seule, comme Charles Konan Bani et Amara Issi. Les autres candidats retenus sont Siméon Konan Kwadio, Henriette Lagou Adjoa, Mamadou Koulibaly, Kwadio Konan Bertin, Jacqueline Claire Kouangwa et Kaku Nyangbo. La campagne électorale va s'ouvrir le 9 octobre et s'achèvera le 23 octobre à minuit. Devançant l'annonce officielle de la liste, les opposants les plus virulents au président Ouattara ont d'ores et déjà contesté sa candidature et a appelé à manifester aujourd'hui jeudi, brandissant la carte de son inéligibilité. Le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a mis en garde contre tout désordre ou trouble, assurant que des moyens seront mis en place pour que ce scrutin soit sécurisé et apaisé.
Le groupe français Bolloré a lancé hier à Abidjan les travaux de réhabilitation de 1260 km de rails entre la capitale économique ivoirienne et Ouagadougou au Burkina Faso pour un coût de 400 millions d'euros sur 5 ans. Selon le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan, ce projet permettra d'accélérer le mouvement des échanges commerciaux entre les deux pays. La valeur de ces échanges est passée d'environ 165 milliards de francs CFA en 2011 à environ 290 milliards de francs CFA en 2014, a-t-il souligné.
Les autorités américaines et béninoises ont signé un contrat de 375 millions d'investissements dans le secteur d'énergie électrique au Bénin. Le vice-président américain Joe Biden et le président du Bénin, Thomas Yayiboni, ont présidé la cérémonie de signature du Millennium Challenge Corporation Compact ce mercredi à la Maison-Blanche. L'accord de 5 ans permettra la distribution de l'électricité, l'accès hors réseau et la réforme du secteur de l'énergie. Le Millennium Challenge Corporation, une agence d'aide étrangère des États-Unis, estime que 9,8 millions de personnes vont bénéficier de cet investissement dans les prochaines années.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie confirme la présence de ses militaires en Syrie. Les pays occidentaux se disent de leur côté préoccupés par un plus grand soutien de l'armée russe au régime du président Bachar al-Assad. Les précisions de Michel Joseph.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué mercredi dans une déclaration que des experts militaires russes sont en Syrie pour aider l'armée syrienne à maîtriser l'utilisation des armes russes. La Russie n'a jamais dissimulé sa coopération technique militaire avec la Syrie et lui fournit de longue date des armes et d'autres équipements militaires conformément aux contrats bilatéraux, a-t-elle souligné. Selon Mme Zakharova, ces équipements doivent aider l'armée syrienne à faire face à la menace terroriste qui, a-t-elle dit, a atteint des niveaux sans précédent en Syrie et en Irak. L'agence Reuters, citant des sources libanaises, rapporte de son côté que les forces russes participent à des opérations de soutien aux troupes syriennes, un dossier que le secrétaire d'État américain John Kerry a évoqué mercredi avec son homologue russe Sergei Lavrov, en soulignant que cette situation pourrait mener à une violence accrue, a révélé John Kirby, porte-parole du département d'État. Citant un porte-parole de l'ambassade russe à Téhéran, l'agence de presse russe TASS indique pour sa part que l'Iran a accordé aux avions russes l'autorisation de survol de son territoire.
Les États-Unis ont promis mercredi d'accepter plus de réfugiés fuyant les guerres en Syrie et ailleurs. Après une rencontre avec les législateurs au Congrès, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré « Nous sommes en train de voir quel nombre nous pouvons gérer spécifiquement à l'égard de la crise en Syrie et en Europe ». Peu de temps après cette rencontre avec Kerry, le sénateur John McCain a exhorté le président Barack Obama à endiguer la violence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Et pendant ce temps, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont joint leur voix pour en appeler aux valeurs de l'Europe, afin que les pays de l'Union européenne se répartissent immédiatement 160 000 réfugiés. À Strasbourg, le président de la Commission européenne a demandé de faire preuve d'audace et de solidarité pour résoudre la pire crise de ce type en Europe depuis 1945. À Berlin, la chancelière a martelé qu'elle voulait une répartition contraignante des réfugiés, quitte à bousculer sérieusement les plus réticents de ses partenaires européens.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
La Tunisie, dont l'économie fait face à des difficultés, va demander un nouveau plan d'aide au Fonds monétaire international, a annoncé hier le gouverneur de la Banque centrale, Chedli Ayari.
Le principe du programme a été adopté, ce qui est énorme. Bon, ensuite, on va se mettre au travail à partir du mois de novembre pour arrêter le type de programme, sa nature, ses composantes, ses objectifs. Le volume de cette aide, c'est combien ? On ne sait pas encore.
Chedli Ayari, le gouverneur de la Banque centrale, a déclaré que ce plan d'aide devrait être au moins égal à la ligne de crédit consentie par le FMI à la Tunisie en 2013, soit 1,7 milliard de dollars. En déplacement à Tunis, Christine Lagarde, directrice du FMI, a elle de nouveau pressé la Tunisie de mettre en place les réformes exigées en contrepartie de l'assistance financière actuelle du FMI sans s'engager sur une nouvelle aide. Ouverture hier à Bangui d'un forum, le premier du genre, sur la promotion du secteur privé centrafricain. La rencontre de 4 jours doit proposer des stratégies en vue d'assainir le climat des affaires en Centrafrique, créer un partenariat public-privé et surtout mettre la rigueur dans la gestion des finances publiques, précise l'agence APA. Le forum doit aussi proposer des solutions pour relever l'économie centrafricaine. Le Gabon a levé 80 milliards de francs CFA sur le marché financier régional pour réhabiliter les voiries de Libreville. Des travaux estimés à près de 150 milliards de francs CFA.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg. Merci Claire. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et c'est avec Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
Open de tennis des États-Unis, Dame Pluis s'est invitée hier à New York, perturbant le programme.
En quart de finale dames hier, l'Italienne Flavienne Pennetta a battu par 2-7-1 la numéro 4 mondiale Petra Kvitova. Elle rejoint en demi-finale sa compatriote Roberta Vinci, donnant pour la première fois à l'Italie 2 demi-finalistes à l'Open des États-Unis. Roberta Vinci aura le redoutable honneur de défier la grande favorite, la numéro 1 mondiale Serena Williams, qui pourrait, en cas de succès en finale, réaliser le premier grand chelem du tennis féminin depuis 1988.
Oui, ajoutons que les Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka ont livré chacun leur meilleur match depuis leur arrivée à New York. Roger Federer a surclassé Richard Gasquet, pourtant 12e joueur mondial, en 3-7, 6-3, 6-3 et 6-1. Et Stan Wawrinka a fait retomber sur terre Kevin Anderson 6-4, 6-4, 6-0 deux jours après le plus beau succès de sa carrière face au numéro 3 mondial Andy Murray. Team, passons maintenant au football. La Major League Soccer, la ligue professionnelle de football ici aux États-Unis, veut mettre aux prises les meilleurs clubs anglais et américains.
Ces dernières années, Manchester United, Chelsea et Liverpool ont souvent joué des matchs amicaux ici aux États-Unis. Mais la nouvelle idée est d'organiser un tournoi regroupant les champions et vainqueurs de coupe des deux pays chaque année ou tous les 4 ans, a expliqué Don Garber, président de la Ligue américaine.
Coupe du monde 2022 au Qatar, 28 jours ne suffiront pas pour ce tournoi, estime la FIPRO, le syndicat international des joueurs.
Autre souci exprimé hier par le secrétaire général de la FIFPRO, Theo van Segelen, la poursuite des compétitions nationales alors que le mondial 2022 se poursuit. La FIFA a décidé en mars dernier que la Coupe du Monde 2022 se jouera en novembre et décembre au lieu de la période traditionnelle de juin-juillet, pour éviter l'écrasante chaleur du Qatar.
Et en football féminin, faux bond de l'équipe nationale d'Australie qui était attendue pour 2 matchs amicaux ici aux États-Unis.
Les Matildes, ainsi qu'on les appelle, ont annoncé leur retrait mercredi soir. Selon leur syndicat, elles ne sont pas parvenues à un nouveau contrat de travail avec la Fédération australienne de football. Une déception pour les fans américains qui ont acheté au total 60 000 billets pour les matchs des 17 et 20 septembre contre la sélection nationale américaine à Détroit ainsi qu'à Birmingham dans l'Alabama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura au micro. Le Monde aujourd'hui place maintenant au dossier du jour. Le procès de Hissène Habré se suit son cours au Sénégal après la lecture de l'ordonnance de renvoi. Hier a commencé le balai des experts et des témoins. Le contexte historique a été bien sûr évoqué. Par ailleurs, les victimes n'ont pas manqué de montrer leur soulagement avec la tenue de ce procès. Elles espèrent toutes un verdict juste et équitable de Dakar. Le compte-rendu de Sokhna Nata Mbaye.
Il s'agit surtout de définir le contexte historique, mais aussi de cerner la personnalité de l'ancien chef d'État. Celui-ci est présenté par l'historien Arnaud Dingamadji comme un homme brillant, fier et prêt à tout pour le pouvoir. Il est revenu sur la période entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Pourtant, vers le début des années 80, l'ancien président a été apprécié par certaines puissances telles que la France ou les États-Unis. Ces pays ont été à ses côtés dans sa guerre contre le défunt dirigeant libyen Muammar Gaddafi. Washington a financé cette entreprise à hauteur de 12 milliards de francs, soit 25 millions de dollars. Paris, de son côté, a fourni le matériel et le personnel militaire nécessaire. Autre expert convoqué, Yahara Gassama Diop, de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Selon le parquet, la dame a été excusée suite à un empêchement de dernière minute. Concernant les témoignages, ils étaient aussi poignants les uns que les autres. Ousmane Abakar, victime et cultivateur au moment des faits.
Nombre de mes collègues ont été tués ou ont disparu. Beaucoup sont morts en prison suite au mauvais traitement, à la torture. Je rentre maintenant au pays avec l'esprit serein et plein d'espoir que le procès qui vient de commencer aboutira à un verdict juste et équitable.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est un sentiment de délivrance partielle qui habite les victimes. Clément Abefouta, président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré.
Nous avons reconnu dans cette lecture nos noms, ceux de nos frères et sœurs tchadiens, ceux de nos parents. Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subies de 1982 à 1990.
Les avocats de la défense continuent de bouder la salle d'audience. Maître Georges-Henri Bautier, de la partie civile, lui, a émis une réserve après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Nous allons soulever la question qui n'a pas été tout à fait toujours reprise par l'ordonnance de renvoi, qu'il était pour nous souvent à la fois l'exécutant direct et à la fois le supérieur hiérarchique. C'est simplement demander qu'on prenne acte de nos réserves, qu'on va plaider, qu'on joue franc jeu.
Le défilé des témoins et des experts se poursuit. Le régime d'Abré a été mis à nu ainsi que ses méthodes de torture. Lui, par contre, était muet comme une carpe même quand il a été appelé à la barre, toujours en turbané. Une requête a été adressée à la chambre afin qu'Abré retire son turban. Mais le juge a décidé de ne pas statuer pour l'instant. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la reprise mouvementée du procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Quels en sont les enjeux? Le procès d'Habré, le premier d'un ex-dirigeant africain dans un autre pays du continent, servira-t-il d'exemple? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En RDC, la CCT, la Coalition congolaise pour la transition, plateforme regroupant entre autres des Congolais de l'étranger, s'insurge contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle intimant à la CENI d'organiser impérativement les élections des gouverneurs des 26 provinces nouvellement créées avant tout autre scrutin. Cette formation politique en appelle plutôt à la mise sur pied d'un gouvernement de transition au regard des difficultés d'organiser les élections. Eddy Sango a joint à Paris le secrétaire général de la CCT, Willy Delors Ongenda.
C'est un coup d'État institutionnel. On est très surpris de constater aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, dont ce n'est pas le mandat, se substitue à la CI et en plus prend la place de l'Assemblée nationale. La CCT s'inscrit en faux contre cette Cour constitutionnelle, dénonce avec la dernière énergie et se propose par ailleurs de former un gouvernement parallèle à celui de Kabila pour pouvoir mettre de l'ordre en République démocratique du Congo.
Mais la Cour constitutionnelle est quand même l'organe d'arbitrage en cas de litige électoral, en cas de contentieux à ce niveau-là.
La Cour constitutionnelle a le droit de donner son avis, mais quel avis ? Ici, il n'est pas question de donner un avis. Ici, la Cour constitutionnelle prend la place de la CI et donne l'ordre à la CI de revisiter le calendrier électoral. Donne l'ordre à la CI de passer dans 3 semaines à l'élection ou à la nomination des gouverneurs des provinces, lesquelles provinces ont été disséquées. Et donc, finalement, ça veut dire que ces gouverneurs de province vont dicter l'ordre pour les élections à venir au niveau de province, notamment les élections de autorités provinciales. Et cela, ça sera au profit de la personne, donc M. Kabila, qui aura mis en place ces gouverneurs.
Comment la RDC peut-elle aller aux élections tant que des nouvelles provinces ont été créées, ce qui implique l'établissement de fait de nouvelles circonscriptions électorales?
Les conditions ne sont pas réunies pour les élections. Regardez ce qui se passe actuellement. Voilà pourquoi la CCT a toujours été contre les élections, a toujours été contre le dialogue. Où est-ce que l'argent va sortir déjà pour le 800 millions d'euros au niveau des élections? On nous dit qu'on n'a pas d'argent. Et parmi ces entités administratives, il y a des entités qui sont très, très, très pauvres. Il y a des entités où il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces entités puissent se mettre au diapason d'autres entités? Et comment voulez-vous d'ailleurs faire des élections au moment où dans certaines entités d'ailleurs, même la CENI a demandé à ce que les élections n'aient pas lieu dans certaines entités récemment créées?
Willy Delors Ongenda, le secrétaire général de la coalition congolaise pour la transition, joint à Paris.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
À RCA, le gouvernement tend à redynamiser l'économie du pays à travers le secteur privé. C'est à cet effet qu'un forum sur la promotion du secteur privé est ouvert depuis hier à Bangui. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Les autorités de la transition ont vu à travers cette rencontre identifier les principales contraintes du développement de l'économie nationale et mettre en place des dispositifs pour son épanouissement. La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, présente à la cérémonie d'ouverture, a indiqué que ce forum doit jeter les bases solides pour le développement économique de la République centrafricaine.
Ce forum doit forger une nouvelle dynamique, favorisant une synergie agissante entre le secteur privé et l'administration, afin de jeter les bases d'une reconstruction économique du pays qui restitue au secteur privé le rôle moteur de levier indispensable de la croissance économique.
3 secteurs sont donc ciblés par les participants qui sont des opérateurs économiques centrafricains et internationaux. Il s'agit de l'agriculture, des forêts et du sous-sol. Il est aussi question de concevoir des dispositifs d'encadrement et d'incitation des opérateurs économiques à l'investissement. Gertrude Zouta, ministre du Commerce et présidente du comité d'organisation du dit forum.
Comme vous le savez, c'est le secteur privé qui crée les richesses et qui distribue les revenus. L'objectif de la tenue de ce forum est de réunir tous les opérateurs économiques, tant nationaux qu'internationaux, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le gouvernement, de manière à ce qu'ensemble nous puissions débattre sur les différents problèmes que rencontre le secteur privé national.
Ouvert ce mercredi 9 septembre, les échanges devront prendre fin le 13 septembre prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Niger, l'opposition politique et des organisations de la société civile exigent la mise en accusation du président de la République après l'affaire de saisie d'importantes devises de la douane donc du pays à l'aéroport de Niamey en août dernier. Près de 9 milliards de francs CFA ont été saisis sur des individus d'origine nigérienne, mais aussi nigériane, puis restituée aux 10 individus sur instruction des autorités nigériennes contre le gré des douaniers. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Il n'y a toujours pas de réaction et d'explication officielle sur la scabreuse affaire de restitution d'importantes devises, près de 9 milliards de francs CFA, aux fraudeurs nigériens et nigérians interceptés à l'aéroport de Niamey par la douane en août dernier. Face à ce mutisme, des voix s'élèvent pour exiger des comptes. C'est ainsi que les partis politiques de l'opposition, coalisés dernièrement avec des syndicats et associations de la société civile en front patriotique et républicain, exigent une mise en accusation du président de la République pour haute trahison.
On peut affirmer sans embâge que la responsabilité du président de la République qui a juré sur le Saint-Coran de respecter et de faire respecter la Constitution ainsi que d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est engagée. Par conséquent, le Front patriotique et républicain demande au groupe parlementaire de l'opposition d'initier instamment une procédure de mise en accusation du président de la République pour violation de son serment et pour haute trahison. En tout état de cause, le Front patriotique et républicain considère que le président Issoufou Mahamadou n'est plus digne de la confiance placée en lui par le peuple nigérien.
Dans la déclaration publique, le FPR estime que cette affaires et bien d'autres illustrent à suffisance un banditisme d'État instauré au haut niveau depuis 4 ans et ce pour deux raisons principales.
Si en l'espace d'une semaine, une dizaine de milliards de francs a été saisi sur la seule plateforme aéroportière de Niamey, combien de milliards ont été dissipés en 4 ans de gestion? En réalité, toutes ces pratiques ne visent qu'un double objectif. Premièrement, sécuriser les ressources induites, accumulées à l'occasion des différentes opérations de corruption et de blanchiment, ainsi que d'autres opérations illicites. Deuxièmement, constituer à M. Mahamadou Issoufou, alias Charlie, et à son parti, le PNDS, un trésor de guerre dans la perspective des élections de 2016.
Les partis politiques de l'opposition et les syndicats et associations de la société civile ont demandé au procureur de Niamey de se saisir très vite de cette affaire pour la tirer au clair. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Voilà, on termine ici aux États-Unis. Les villes de Washington, New York et Philadelphie se préparent à recevoir la visite du pape François. Ce sera la fin du mois de septembre. C'est la ferveur donc chez les catholiques des États-Unis, nous dit le père Jean-Claude Atoussé-Meosso, prêtre catholique du diocèse de Washington. Il a été joint par Jean-Roger Bion.
C'est l'engouement total, c'est la joie totale. Nos chrétiens sont très très contents de recevoir le Saint-Père. Mais non seulement les chrétiens catholiques, mais ceux qui ont même quitté l'église catholique avec cette arrivée du pape, il y a certains qui disent que c'est pour eux une très bonne occasion pour retourner à l'église catholique. Donc c'est la joie totale et c'est tout le monde qui aimerait participer à un des événements lors de l'arrivée du Saint-Père aux États-Unis.
Alors quels seront les grands moments de cette tournée papale sur le sol américain?
D'abord lui-même qui arrive le 20 mardi à 16h à la base militaire Andrews. Le 23, il a un petit déjeuner de réception de bienvenue à la Maison Blanche. Et après ça, il va aller rencontrer les évêques à la conférence épiscopale. Et le grand moment, c'est la canonisation d'un saint américain. Et puis après, encore un grand moment qui sera à New York où il va prier avec la communauté écuménique au World Trade Center et aussi à Philadelphie pour la rencontre des familles.
Le pape est une personnalité iconoclaste et à quelques jours de son arrivée, il vient de changer les procédures concernant le remariage dans l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on en dit dans le milieu catholique?
Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que le pape a commencé à agir dès son début. Son charisme, dès le début, ça a été un charisme de la miséricorde. Comment est-ce que le Christ lui-même verrait un chrétien? Même dans cette décision qu'il vient de prendre, on sait lire cette tendance de miséricorde de la part du pape François. En gros, ce que je peux dire, c'est déjà un élan positif dans le sens de la miséricorde, où le pape veut que nous puissions vraiment aller au cœur du chrétien pour aider et manifester auprès de ces chrétiens la miséricorde que le Christ lui-même aurait manifestée à ces chrétiens.
Voilà, c'était le père Jean-Claude Atoussé-Meosso, prêtre catholique du diocèse de Washington.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Voilà, c'est tout donc pour cette édition. Anne Alberson a dirigé la mise en onde, présentation Bagasikura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.